Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 121. C'est la rentrée des souvenirs de rien. Charles Daniel Salch. Ah, chers amis, bonjour, c'est la rentrée. Fini l'été, fini les coquillages et crustacés, et sur nos corps bronzés, toute la fatigue des vacances. Vive la rentrée. Et lorsque c'est la rentrée, qu'est-ce qu'on entend à la radio ? Qu'est-ce qu'on entend dans chaque émission pour nous aider à savoir quoi penser ? On entend des spécialistes partout, partout il y a des spécialistes. Et nous accueillons aujourd'hui un expert en géopolitique, un expert qui crie famine, un spécialiste en légumes biologiques, le plus connu des diplômés en haute école d'analyse stratofrigidique des mouvements de société. Eh bien, dans « Vous l'avez connu », vous l'avez bien connu, notre émission de radio, merci Radio Judaïca Strasbourg, émission qui fait sa rentrée en ce début de mois de septembre 2025, nous avons l'ambition d'accueillir des invités qui sont des experts en rien. Oui, en rien. Ouh là là, quelle ambition! Alors disons que nos invités, je vais les inviter à parler de rien, c'est-à-dire de tous ces petits riens qui font que la vie est belle, triste et cruelle, réelle et surréelle, terrifiante et marrante, belle comme tout, de ces petits riens dont on ne parle pas souvent, mais si en vrai nos invités sont bien des spécialistes, mais qu'on a guère envie d'entendre ces experts, souvent sans légitimité, pérorer à la radio pour commenter l'actualité et nous demander de partager des indignations pour lesquelles nous n'avons mené aucune enquête, aucun travail journalistique et avec qui nous pourrions nous gausser d'une soi-disante complicité à l'antenne. Donc, on va parler de rien. Et ce rien aujourd'hui, c'est un étudiant en mathématiques, un jeune homme brillantissime, un gars super sympa, il est grand, il est beau, il est fort, il a plein de diplômes, un grand sourire, un beau vélo, il est ceinture noire de judo et il s'appelle Charles Daniel Salch. Bonjour Charles Daniel Salch.
Bonjour Ambroise Perrin.
Alors on imagine que vous êtes devant une grande carrière d'homme très important. Dites-moi, Charles Daniel, et on n'a pas préparé les questions ni les réponses. Aimez-vous la tarte au fromage ?
Ah, la tarte au fromage du boulanger d'en face de chez moi. Elle est formidable. Alors, la meilleure d'Alsace, tout simplement.
Et qu'est-ce qu'elle a de spécifique ?
Elle a un goût d'enfance, un goût de plaisir, un goût de sucré qui ravit les papilles et le cœur.
Et de la vanille.
Et de la vanille.
Oui, peut-être.
Peut-être.
Oui, oui. Mais alors, vous êtes en fac depuis pas mal de temps. Je sais que vous avez fait 2 années à Dauphine, à Paris. C'est l'école la plus prestigieuse dans votre spécialité mathématique, Charles Daniel. Si vous avez une demi-heure devant vous, entre 2 occupations très importantes, une demi-heure de temps perdu, comme disait Marcel, que faites-vous ?
Je lis très volontiers de la littérature, ou bien les livres de mon formidable voisin.
Mais ça veut dire que vous avez toujours un bouquin avec vous ?
Toujours, toujours.
Oui. Là, par exemple, vous êtes venu au studio radio. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac ?
J'ai Madame Bovary.
Oh ! Quelle surprise !
Quelle surprise !
Voilà. Alors, est-ce qu'à l'école, vous étiez un bagarreur ?
Non. Pas, la bagarre par les mots est bien plus intéressante que la bagarre par...
Mais quand on est fort, quand on a des biceps plein les manches, quand un petit copain vous embête, on n'a pas envie de le bousculer un petit peu ?
C'est le principe de la dissuasion, être fort pour ne pas avoir à à en user.
Et donc, comment l'autre fait pour s'apercevoir que vous êtes fort? Pas Olivier, mais...
C'est un paraître, oui. C'est une volonté d'être.
Oui, être ou paraître, voilà, bon, là on pourrait chercher Shakespeare, mais comment, je sais pas, quand on a 9 ans, 10 ans, dans une cour de récréation, on arrive à s'imposer?
Ah, on ne s'impose pas, on laisse les autres profiter de soi et
ça marche?
Ça marche, oui. Ça marche.
Et alors, vous êtes premier en classe, donc les autres sont jaloux, donc ils ont envie de vous titiller un peu, non?
Pas forcément.
Non.
Certains viennent vous poser des questions, d'autres sont là, indifférents.
Admiratifs?
Pas forcément.
Non. Vous étiez chef de bande?
Pas du tout.
Non. Et il y avait des chefs de bande dans votre classe?
Pas tellement.
Non.
C'était plutôt une égalité entre les hommes et entre les femmes. Chacun des étudiants.
Oui. Donc ces histoires de chefs de bande, c'est plutôt des scénarios de...
Ça dépend des collèges.
Oui. Voilà. Mais à Strasbourg, on est plutôt calme.
On est calme,
voilà. Et alors, à table, est-ce que vous êtes du genre à finir votre assiette ou à pleurer que vous n'avez pas assez parce que vous avez faim?
Bah, les deux.
Ah non.
Finir son assiette, c'est l'éducation presque sentimentale, finalement. Mmh. Mais demander plus, c'est avoir la volonté de plus, toujours plus, toujours plus.
Ah oui?
Oui.
Mais parce que vous aviez une impression de manque ou...
Ah non, sûrement pas.
Non?
J'ai été très bien nourri.
Mais alors, c'est un petit jeu, vous n'êtes pas de la génération où vous dit BLM, bouffe la moitié.
Oui. Ah, c'est un régime très bien connu, surtout chez nous, dans l'immeuble, mais pas dans mon appartement.
Bon, voilà. Donc, alors, une question bateau, vous arrivez sur une île déserte, hein, et heureusement, vous êtes prévoyant et vous avez un livre et un film préféré. Lesquels?
Un livre, Madame Bovary.
Encore,
parce qu'il ne, il ne parle de rien.
Oui.
Et c'est ça qui est formidable. Et un film, alors là, je sèche.
Ah ben alors moi je vais vous souffler, Chantons sous la pluie.
Par exemple, oui, très bonne idée.
C'est très joyeux,
très joyeux.
C'est beau, on peut le revoir plusieurs fois. Et bon, vous avez, alors on parlait de l'école. Comment ça s'est passé, par exemple, pour votre baccalauréat?
Bon, mon baccalauréat, d'abord, passons par un souvenir d'enfance. J'ai le souvenir d'un formidable voisin, une tempête qui allait toujours de droite à gauche et de gauche à droite, mais surtout à gauche, et qui allait partout et nulle part, et qui, un jour, dans une de ces tempêtes, dans une de ces tornades, me racontait, dans l'encadrement de la porte, alors qu'il était déjà pressé par ailleurs, qui me racontait sa passion pour la littérature. Et en particulier, il m'a raconté le dit livre Madame Bovary. Et j'ai eu la chance formidable de l'avoir ensuite à l'oral du baccalauréat en français. Et j'ai pu raconter la passion de la littérature que m'avait transmis ce formidable voisin.
Et donc, le professeur était subjugué.
Subjugué, absolument.
Et un peu déçu quand vous lui avez dit que vous allez faire des études de maths.
Un peu.
Oui. Mais alors, comment ils seront choisis les maths au livre?
D'abord, on ne choisit pas les maths au livre, on choisit les maths pour l'école et les livres pour la maison. On ne choisit pas entre les maths et le livre. L'un est indispensable à l'autre. Être mathématicien sans connaître les classiques, la formidable littérature française, Hugo, Voltaire, etc., c'est finalement perdre son âme.
Perdre son âme? Parce que les mathématiciens, ils n'ont pas que des petits rouages qui font des logarithmes, ils ont aussi une âme.
Ah, plein de mathématiciens
Pascal,
connaissent la littérature.
Bien sûr, mais...
Ah, il y a beaucoup de mathématiciens qui sont fans de littérature.
Oui. Et les grands, je sais pas, Einstein par exemple, il lisait des livres.
Il lisait beaucoup.
Oui, il lisait beaucoup. Oui, c'est ça. Et donc, pendant vos études de maths, vous aviez des profs qui vous suggéraient de, livres, de lire des grands romans?
Ah non, quand même non. Pas. Mais on sentait de temps à autre des figures de style, une volonté de parler de manière élégante.
Oui. Mais de toute façon, la rupture entre les maths et la littérature, les baccalauréats littéraires, scientifiques, je pense que c'est quelque chose d'assez...
C'est assez récent. Jusqu'à la Renaissance et même après, beaucoup de mathématiciens étaient aussi...
Des philosophes. Oui, c'est ça. Et Léonard de Vinci, par exemple, qui était... Non seulement il peignait des sourires des jolies filles, mais il était mathématicien et probablement...
Puis même Pascal. Pascal et puis...
Voilà. Donc, on parle des souvenirs dont on ne se souvient pas. Donc ces souvenirs qu'on appelle ces petits riens, est-ce qu'il y a d'autres petits riens qui vous reviennent en mémoire? Je sais pas, la première fois où vous êtes tombé du vélo, la fois où vous avez mangé trop de bonbons,
enfin des riens. La fois où j'ai mangé trop du gâteau fait avec amour par ma maman. Oui. C'était une tarte aux pommes, une formidable tarte aux pommes, une bonne tarte aux pommes, bien, avec plein de pommes, plein de sauces, avec la formidable odeur de...
Avec de la cannelle.
Et malheureusement pour mes voisins, oui.
Et alors donc, oui, parce que vos voisins n'aiment pas la cannelle. Mais vous en aviez mangé de trop, de la tarte aux pommes, ou vous l'aviez mangé en cachette
J'ai mangé en cachette plus de la moitié, ce qui m'a valu un bon mal de ventre, mais un plaisir absolument formidable.
Oui, ça se compense, oui. Entre la douleur et le plaisir.
Le plaisir sur l'instant et la douleur qui vient ensuite.
Alors, on va faire une digression, j'ai parlé de la douleur de Marguerite Duras, c'est un texte qui me revient comme ça en mémoire, je ne sais pas si vous connaissez, si
bien
vous
sûr.
L'avez lu. Oui. Vous l'avez lu à quel âge?
J'ai dû le lire peu avant le baccalauréat.
Oui. Et ça vous a marqué?
Pas particulièrement.
Non?
Non.
Non. On peut raconter un peu l'histoire. Marguerite Duras, donc, qui attend son mari, qui rentre du camp de concentration. Il est vivant, c'est formidable. Il arrive, sauf que juste avant la rafle et tout, ils étaient en train de divorcer. Et il a des douleurs terribles. Il lui faut un régime très très précis pour manger très très peu, pour reprendre des forces. Et il va falloir un moment qu'elle lui dise qu'il se sépare. Mais c'est quand même un moment très très délicat. Et donc la douleur, c'est à la fois la douleur partagée, l'empathie par rapport à ce qui s'est passé dans les camps. Mais c'est aussi la douleur de se séparer de quelqu'un qu'elle aime toujours, mais elle aime quelqu'un d'autre aussi. Et c'est une figure de style parce que c'est quelque chose qui est inhérent à sa nature. Et donc c'est un bouquin qui bouleverse pas mal quand on a 18 ans.
J'ai été beaucoup plus bouleversé par Un sac de billes de Joseph Joffo.
Oui.
L'histoire de ce jeune garçon qui se fait rafler.
Et vous avez vu le film de...
Non, j'ai pas vu le film.
Doyon.
Je préfère lire.
Qui est, oui, bravo. Qui est très controversé aussi parce que on dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont, disons... un petit peu arrangé, de fiction, que c'est pas vraiment vrai, qu'il y a une histoire de droit d'auteur en plus autour de cela. Mais effectivement, c'est un bouquin presque emblématique parce que beaucoup de profs l'utilisent en classe.
Ah non, je l'ai lu par moi-même.
Ah oui.
C'est conseillé par ma maman.
Eh ben,
et je l'ai lu encore plus tôt. Je l'ai lu en sixième. Et il m'avait vraiment beaucoup ému.
Bouleversé. C'est un livre bouleversant, oui, parce qu'on s'identifie comme ça. C'est un peu comme le Club des Cinq, alors je ne compare pas.
Oui,
mais les deux personnages, comme les deux héros du bouquin, ont 14-15 ans, hein, je crois. Donc,
ils sont très jeunes.
Effectivement, quand on lit ça, est-ce qu'on se dit à ce moment-là, ça aurait pu être moi?
Ça aurait pu être moi.
Oui, c'est ça. Oui. L'identification dans... Oui. Alors, en littérature, c'est quelque chose d'assez courant, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on écoute une émission, une pièce de théâtre à la radio, par exemple, hein, on s'identifie tout de suite au personnage, on invente dans sa tête des visages. Est-ce qu'en maths, on peut s'identifier à quelque chose quand on a un logarithme devant soi, est-ce qu'il y a une projection de soi dans la suite des chiffres, par exemple ?
Non, mais c'est beaucoup plus abstrait. C'est comme si on était dans un autre monde. En tout cas, c'est une autre vision du monde. Ce n'est pas une vision où on est vous et moi en face de l'autre. Nous serions deux fonctions qui se rencontrent, mais ne se touchent jamais.
Ça veut dire que les maths pourraient s'approcher de la fiction par rapport à la réalité des choses quand on...
Dans le terme fiction, il y a quand même une connotation d'irréel. Mais quelque part, en tout cas, c'est un beau roman.
Oui. Mais alors, par exemple, une suite de chiffres, qu'on la tire au sort, hein, donc on a 10 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on fait une suite de chiffres, comme au loto, hein, par exemple, on en prend 10, quelle est la probabilité de faire deux fois la même suite? C'est 10 factoriel,
oui. À ce propos, j'ai entendu parler qu'un roman est en cours d'écriture.
Ça c'est les Oulipiens.
Les Oulipiens.
Font ça, oui. Mais donc, quand on est dans ce monde quasiment impossible des mathématiques avec des logarithmes qui nous mènent en dehors de la galaxie, de la Terre et derrière le Soleil et tout, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être quand même dans un truc de fiction que... Ou alors, la question plus simple, à quoi ça sert ?
À quoi ça sert ?
Oui.
À rien. Ah. Et c'est ça qui est génial. Non, c'est pas que ça sert à rien, c'est... L'application ne vient pas forcément tout de suite. Mm-hmm. Et c'est ça qui est beau, finalement.
Alors, vous vous destinez à être chercheur en mathématiques ?
Non.
Vous avez trouvé déjà, oui. Mais concrètement, après le bac, au bout de 3-4 ans d'études en maths, qu'est-ce qu'on étudie ? Est-ce qu'on peut essayer de comprendre, nous, pauvres auditeurs de Radio Judaïque à Strasbourg ?
Par exemple, on commence à étudier le risque. Le risque, par exemple, pour les assurances de que vous brûliez votre voiture ou que votre voiture brûle ou que votre maison brûle, on commence à étudier ce risque et comment...
C'est une formule mathématique, donc c'est des...
Ah, c'est plus compliqué, mais c'est des...
C'est des statistiques.
C'est des statistiques, oui.
Voilà. Et alors, la différence entre les statistiques et les probabilités ?
Ah, les probabilités, c'est abstrait, dans le sens où... la probabilité, c'est un cadre dans lequel tout est parfait. Et puis, il y a les statistiques qui sont l'application des probabilités au monde réel, étudiée par rapport au modèle probabiliste, l'application concrète.
Oui. Et donc, quand même, vos études de maths sont très concrètes, alors, si je comprends bien.
Sont très concrètes, oui.
Ah oui. Et ça veut dire que les grandes entreprises peuvent
me vouloir, oui.
Oui, pour calculer quoi, le prix de l'assurance,
par exemple,
que vous évoquiez avant.
Par exemple.
En sachant que vous payez une assurance contre l'incendie, vous avez une chance sur 10 000 ou 100 000 qu'il y ait un incendie.
J'espère
chez vous.
Plus que 10 000.
Ah oui, oui. Donc s'il y a 100 000 personnes qui payent leur cotisation et qu'il y a un seul incendie.
C'est ça, il faut calculer.
C'est bingo pour la compagnie, quoi.
Ça dépend à combien est l'assurance.
Ah oui, c'est ça, oui. Mais vous payez tout le fonctionnement et tout,
en plus.
Tout le reste, voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est quelque chose auquel on pense le soir quand on rentre ?
on espère que ça n'arrive pas, surtout.
Est-ce que c'est quelque chose d'obsédant, les mathématiques ? Est-ce qu'on est un peu fanat ? Bon, il y a des gens qui font des métiers où ils sont je ne sais pas, ils sont journalistes 24 heures sur 24. Hein. À 3 heures du matin, ils allument la radio, ils réagissent, en tout cas dans leur tête.
Ouais.
Mais les maths, comme ça, est-ce que c'est quelque
chose...
On en
rêve.
On en rêve ?
On en rêve.
On ne cloisonne pas ? Non.
Impossible.
Non. Et alors, si on vit avec quelqu'un... est-ce que ça doit être forcément un rêveur aussi en mathématiques ou ça peut être quel... Est-ce qu'on peut un mathématicien peut s'entendre avec un ou une littéraire?
Bah oui, je... oui. Oui,
oui. 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 Et il parle de quoi à la maison alors?
D'archéologie.
Ah oui, oui, parce que là on plonge à la fois dans le passé et est-ce que les maths peuvent servir à comprendre qu'à partir d'un petit caillou on crée, enfin, on reconstitue une civilisation.
Les maths permettent d'apprendre à raisonner, donc quelque part, oui.
Oui. Et donc, vous faites aussi un peu d'archéologie hein, dans votre famille.
Oui,
et,
dans ma famille, oui.
Oui, enfin, votre papa est le ponte, le pape de l'archéologie en Alsace, Charles-Daniel Salch.
Charles-Laurent.
Laurent, votre papa, mais voilà, oui. Je voulais... Et qui a écrit aussi beaucoup, beaucoup de livres. Et vous l'avez accompagné dans les campagnes de fouilles.
Ah oui. Pas dans les campagnes de fouilles, mais dans ses prospections de l'histoire de l'architecture, bien sûr. Oui.
Oui, parce que j'ai cherché sur Wikipédia, avant de venir en studio, votre nom... Et j'ai vu que votre papa, il a 10 pages fantastiques sur tous les châteaux qu'il a explorés.
Ah ben,
sur tous les...
Oui.
C'est un spécialiste des fenêtres, des embrasements,
voilà.
des sculptures de clés dans tous les monuments du Moyen-Âge.
Oui.
C'est absolument formidable.
Absolument formidable.
Et alors, la clé, quelle est la signification de ce symbole?
Ah bah, il y en a plusieurs, mais la plus marquante, c'est la clé du paradis par Saint-Pierre.
Oui.
Que Saint-Pierre tient comme attribut. Et c'est à ce à quoi on le reconnaît.
Et c'est ce qui incite les gens à avoir une vie...
avoir une vie pieuse et
respectueuse. Saine et respectueuse, oui.
Dans l'espoir du paradis.
Et donc d'avoir peur du diable.
D'avoir peur du diable.
Voilà. Et de l'enfer et des malheurs perpétuels. Est-ce que vous aviez peur d'être grondé lorsque vous étiez petit? Est-ce qu'on vous a donné des fessées?
Non.
Non. C'est une autre génération, ça. Vous n'avez pas connu le martinet?
Non.
Non.
Mais, enfin, j'en ai déjà vu et on m'a expliqué à quoi ça servait.
Oui. Alors moi, je vais vous expliquer quelque chose. Comme j'ai la chance d'être le brouillon dans la famille, c'est-à-dire l'aîné des 4 enfants, il fallait toujours montrer le bon exemple. Et donc, ma maman, qui avait elle-même l'un, elle avait un martinet qu'elle avait acheté à la COP. Ça, les gens, ils connaissent. Hein, voilà, à la COP. Je me souviens, il avait un manche jaune et des lanières en cuir. Et elle le brandissait, mais elle le maniait très peu souvent, mais quand même. Et on faisait semblant un peu d'avoir peur pour, comme ça, jouer. Et donc, un jour, de grosses bêtises... Elle me dit, alors elle essayait de taper sur soit les fesses, soit sur les mollets, mais c'était quand même un peu compliqué parce qu'on courait vite. Et donc elle me dit, mets-toi droit, tends les mains, et elle allait me taper avec les lanières du martinet sur les mains. Et donc je tends les mains, elle tape, et j'attrape les lanières. Et je tire, elle lâche le manche qui dérape. Sur son menton, sur son nez, et le nez qui, et le sang qui commence à couler. Oh maman, maman, pardon. Donc du coup, c'était elle qui pleurait, et c'est moi. Je l'ai pris dans mes bras, oui. Je me suis excusé et tout. Ah. Et après, on a bien rigolé. Et c'est surtout devenu un souvenir
un
formidable
souvenir.
Qu'on se raconte en l'enjolivant à tous les repas de famille, comme ça, voilà.
En parlant de souvenirs d'enfance, quel est votre plus beau souvenir d'enfance?
Ah, le mien. Mais c'est pas moi qui dois répondre, c'est vous. C'est moi qui pose les questions. Oui, mon plus beau souvenir d'enfance. Alors, j'en ai un rigolo. Donc, je viens de le dire, j'étais l'aîné, donc je devais avoir 4-5 ans, et mon petit frère avait 2 ou 3 ans. Et puis, on habitait à Haguenau, rue des Fourmis, donc on jouait dehors, parce que l'appartement était tellement petit, quatre enfants, les grands-parents et tout, on jouait tout le temps dehors, on sortait, allez jouer, foutre la paix aux parents. Et tout d'un coup, mon frère, il fait caca dans la culotte. Donc il remonte, et il pleure, et il se fait gronder, et il dit, c'est pas de ma faute, c'est Ambroise qui m'a fait dedans. Voilà. Alors, il y en a dans la famille qui disent que c'est vrai, d'autres qui disent que ça a été plus ou moins inventé. Enfin, toujours est-il que c'est une de ces petites histoires de rien du tout que l'on se raconte souvent et qui nous permet de terminer cette émission. Merci beaucoup Charles Daniel Salch pour cet épisode numéro 121 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg. Nous sommes diffusés tous les mardis à 11h30 et rediffusion le dimanche à midi. Cette journée, c'était la rentrée des souvenirs de rien. Charles Daniel Salch, merci, à bientôt. Et la semaine prochaine, nous accueillerons Jean-Paul Picapert qui nous parlera aussi de son enfance et de rien, mais c'est du rien qui se passait en Allemagne et notamment en Allemagne de l'Est, et pour les Alsaciens, pour les Strasbourgeois, ça ring a bell, comme on dit en bon français, c'est-à-dire que ça éveille des souvenirs. Voilà, à bientôt.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them.